autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre première table ronde de l'année avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Cécile Estienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonne année à tous.
Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous et bonne année.
Et Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour.
En ce début d'année, nous vous promettons la Lune, carrément entre science et science-fiction, pour le meilleur comme pour le pire. Nous nous interrogerons sur des bébés génétiquement modifiés, des paraplégiques qui remarchent, des archéologues en quête de l'arche perdue et nous nous mettrons aussi en quête de sens. Quel sens donner à nos vies et pourquoi c'est essentiel? Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bienvenue. Petit tour de table sur ce que nous réserve 2019 avec déjà un début d'année astronomique. La NASA a frôlé Ultimatulé, le corps céleste le plus distant jamais visité, et l'agence chinoise de l'espace a posé son lapin de jade sur la face cachée de la Lune, une première qui a frappé les esprits en cette année 2019 qui est aussi, rappelons-le Mathieu, celle du cinquantenaire de la mission Apollo 11, mais t'as vu qu'on va beaucoup entendre parler, peut-être même nous promettre la Lune pour 2019.
C'est une coïncidence assez étonnante, sans doute pas vraiment une coïncidence non plus, mais c'était donc le 21 juillet 1969 que pour la première fois on a foulé le sol lunaire, et il se trouve qu'on a beaucoup de missions qui repartent maintenant pour la Lune. Alors comme vous venez de lire, on vient de se reposer sur la face cachée, c'est les Chinois qui ont fait ça, mais les Chinois ont une deuxième mission. La face cachée, c'est une première.
Hein. Oui,
jamais
une première.
Encore on avait mis, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas communiquer directement, donc il faut qu'il y ait un petit satellite qui fasse le relais. Les Chinois vont envoyer une autre mission, Chang'e 5, qui elle va être une mission de retour d'échantillons. On n'a pas ramené un seul échantillon de la surface de la Lune depuis 1976. Donc ça aussi c'est une grande promesse, mais c'est un peu la course parce qu'il y a aussi les Indiens qui vont s'y poser. On ne sait pas exactement encore où, mais sans doute quelque part vers le pôle sud. Et on a un certain nombre de petits robots. Il y avait depuis des années une mission qui était avant sponsorisée par Google de faire juste d'envoyer des petits rovers et de venir avoir un certain nombre l'année dernière. Et ben on a oublié comment on fait pour aller sur la Lune. Personne n'a réussi, mais il en reste encore 3 ou peut-être 4 qui sont sur les rangs pour aller poser un petit rover, avec retard, mais ce sera sans doute pour cette année.
Donc retour sur la Lune en 2019. Philippe Pajot, quelle piste, quelle découverte, quelles avancées vous attendez pour cette année?
Vous connaissez mon amour de l'astrophysique, et donc je ne vais pas vous étonner en disant qu'on va attendre la nouvelle campagne d'observation des grands détecteurs d'ondes gravitationnelles, ces spasmes de l'espace-temps qu'on commence à détecter. On en a déjà vu 10, et à partir de une date indéterminée, en tout cas courant 2019, il va y avoir les deux détecteurs américains LIGO et qui sont aux États-Unis, et le détecteur européen Virgo qui est en Italie, vont redémarrer dans une nouvelle campagne avec une sensibilité accrue. C'est ça surtout la nouveauté. Ils ont quand même ils ont été à l'arrêt, mais tout ce temps-là a été utilisé pour améliorer la sensibilité. Et si on a eu une dizaine d'événements, 10 événements exactement,
liés aux ondes gravitationnelles,
donc des fusions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons depuis deux ans, là, avec le redémarrage, avec cette sensibilité, on va sans doute avoir énormément d'événements extraordinaires.
Donc encore plus de trous noirs, de coalescence de trous noirs
et d'étoiles à neutrons. Et puis il y a une deuxième petite chose qu'on attend, c'est un satellite européen qui s'appelle Microscope, qui teste le principe d'équivalence, qui est au fondement de la relativité générale d'Einstein, de la gravitation, qui dit que des corps différents tombent de la même façon dans le vide. Et Microscope l'a déjà testé avec une précision de 1 pour 10.14, donc 10-14 près, donc vraiment une précision monstrueuse, et il va encore améliorer ce résultat. Il devrait publier ça également au mois d'avril. Et s'il y a une déviation, ça voudra dire qu'il y a quelque chose au-delà de la relativité générale d'Einstein.
Oui, ça peut être une année révolutionnaire 2019. Cécile Lestienne, du côté de l'intelligence artificielle, c'est ça? Vous attendez, espérez, vous redoutez des choses?
Disons que je suis très intéressée par voir qu'est-ce que va donner le développement de Bertie. Alors Bertie, c'est le petit nom d'un robot, d'un outil informatique pur produit de l'intelligence artificielle, qui est en ce moment mis en place chez Forbes, le magazine et sa galaxie de sites internet. Et donc Bertie propose chaque matin aux différents journalistes et contributeurs des sujets Avec déjà des photos, des liens pré-mâchés, voire même, paraît-il, Bertie serait capable d'écrire le brouillon de l'article que le journaliste n'aurait plus qu'à peaufiner avant de l'envoyer dans les réseaux. Donc voilà, ça m'interroge
oui,
pas
je
mal.
Et ça nous interroge tous du coup. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que feront les journalistes avec ou sans Bertie justement?
Et après ça dépend. Si vous voyez le verre à moitié vide, vous vous dites « Ah, c'est la mort du journalisme ». Et si vous voyez le verre à moitié plein, vous dites « Ah, pendant que le robot travaille, peut-être que moi j'aurai le temps d'aller faire
de réfléchir, d'enquêter, d'aller creuser
sur d'autres sujets. Voilà.
Espérons 2019, année du neuf, en science aussi, on l'a compris, pour le meilleur comme pour le pire. Le point sur les tests dans Science et Vie, Caroline Thoux, vous faites le point entre fantasme et réalité sur les tests génétiques pour les fœtus, le grand fantasme des bébés parfaits, réveillé par une polémique mondiale autour de la naissance de deux bébés OGM en Chine. Rappel des faits d'abord dans ce reportage de TV5 Monde.
Deux belles petites filles chinoises appelées Loulou et Nana sont venues au monde en aussi bonne santé que n'importe quel autre bébé.
Pas de conférence de presse ni d'article dans une revue scientifique. C'est via YouTube que le chercheur He Jiankui a annoncé la nouvelle, celle de la naissance de jumelles génétiquement modifiées. Loulou et Nana nés d'une fécondation in vitro. Seulement, leur embryon a été modifié par ce qu'il appelle une chirurgie génétique.
Juste après avoir injecté le sperme du mari dans l'ovule, nous avons aussi injecté un peu de protéines et des instructions pour une chirurgie génétique afin de bloquer le point d'entrée par lequel le VIH infecte les gens.
Ce point d'entrée, le gène CCR5. Modifié via la technique des ciseaux génétiques, qui enlève et remplace les parties indésirables du génome, et crée dans ce cas précis des bébés résistants au HIV.
Le moins qu'on puisse dire, Caroline Tourbe, c'est que cette annonce de bébés OGM, de bébés CRISPR-Cas9 a fait scandale, soulevant d'énormes questions éthiques, bien sûr, mais pas seulement. Hein, c'est la thématique de votre article sur ce fantasme des bébés parfaits.
Oui, en fait, c'est un fantasme qui est vieux comme l'humanité. Hein, faire naître des bébés qui seraient parfaits pour en faire des humains parfaits, ça fait... Donc depuis toujours, c'est ce que les humains espèrent, s'améliorer sans cesse, trouver de nouvelles façons de vivre mieux, plus longtemps, meilleure santé, plus intelligemment. Là, c'est vrai que l'annonce du chercheur chinois fait vraiment l'effet d'une bombe. On utilise parfois cette expression-là, mais vraiment, c'est-à-dire que dans le monde de la biologie, ça a fait l'effet d'une bombe, mais pas seulement. Ça a fait l'effet important de cette nouvelle-là, ce qui changerait tout si c'était confirmé, parce qu'encore une fois, la confirmation de cette naissance et de ces naissances et de ces transformations génétiques, elle n'est pas faite. Pour l'instant, on est dans l'ordre de l'annonce. L'annonce, ça a été faite par ce chercheur chinois.
Mais c'est pas une certitude.
On n'en est pas certain. Il a présenté des résultats, mais il a pas présenté des résultats à ses pairs, pas suffisamment. Les enfants qui seraient nés suite à ces modifications-là n'ont pas été examinés par d'autres personnes. Bref, on est quand même dans le flou. Néanmoins, l'effet que ça a eu, et si ça a eu autant d'écho, c'est parce que ce fantasme d'un bébé parfait, pour la première fois, on aurait utilisé une méthode qui génétiquement transforme la filiation, modifie la lignée humaine définitivement. C'est-à-dire que vous allez modifier les gènes d'un organisme au stade de tout premier stade de son développement, dans toutes ses cellules, c'est ça le fantasme là, et c'est même dans ses cellules reproductives, c'est-à-dire que le spermatozoïde,
oui, c'est si pas c'est garçons, cet être-là auquel vous touchez, mais
toute
sa descendance également.
Donc toute la lignée humaine qui va suivre ces enfants-là va être modifiée. Donc on est vraiment, c'est pour ça que ça a eu autant d'écho, c'est que c'est vraiment une méthode qui pour la première fois va toucher l'individu, la totalité de l'individu et puis toute sa descendance.
On peut parler de savants fous et ça a même fait scandale en Chine même. Hein.
Bien sûr, alors les dernières nouvelles de Jiang Kui, qui est le nom du chercheur chinois qui annonce avoir fait naître des bébés OGM, génétiquement modifiés, aux dernières nouvelles, il serait en résidence surveillée en Chine. C'est le New York Times qui a sorti une enquête, qui a essayé de remettre un peu la main sur lui, parce qu'après qu'il ait parlé lors d'une conférence à Hong Kong, il a disparu de la circulation. Donc voilà, dernière nouvelle, il serait en résidence surveillée. Clairement, il a fait ça tout seul, de son côté, mais cette espèce de savant fou qui franchit toutes les frontières et toutes les limites éthiques, en fait c'est pas une première, et notamment sur la reproduction humaine il s'est passé plein de choses, et il y a des docteurs et des médecins qui proposent actuellement ce fantasme à des parents qu'il cherche à le réaliser. C'est aussi ce que raconte notre papier, c'est qu'il y a déjà des endroits où on peut se faire vendre le rêve d'un bébé parfait.
Alors, vendre le rêve, parce que vous parlez de fantasme, c'est pas pour rien, c'est un fantasme,
c'est un bébé parfait.
Heureusement d'ailleurs, mais pour le moment, c'est un fantasme.
De la même façon que, pour l'instant, l'idée du bébé CRISPR, bébé OGM transformé, on n'est pas certain...
chirurgie génétique, on n'est pas certain que ça marche.
Il y a deux aspects, c'est-à-dire, il y a l'aspect éthique. C'est mal, et ça a été fait dans le dépit du bon sens d'un point de vue éthique, et ça franchit des frontières de la morale. Et puis l'aspect technique, c'est que de toute façon, on pense que c'est possible qu'il n'ait pas réussi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est complexe, il se peut que ça n'ait pas si bien fonctionné. Et nous, le papier qu'on a fait, le dossier qui est fait par Héloïse Rambert dans Science et Vie, c'est justement de dire qu'en fait, techniquement, on n'y est pas. Il y a vraiment un fantasme, mais que techniquement, on n'y est pas. Et que tous les tests qu'on propose, qui ne sont pas des tests d'intervention, on ne va pas intervenir sur le fœtus.
C'est des tests de prédiction, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est de la prédiction. Et de sélection.
À partir de l'ADN
À partir de l'ADN. Soit au stade, tout premier stade, c'est-à-dire on crée un embryon in vitro.
Et avant même qu'il ne soit...
Il n'est pas encore implanté, voilà. C'est la fécondation in vitro dans une petite éprouvette. Vous allez mélanger le spermatozoïde et l'ovule, faire une fécondation. Et là, vous analysez l'ADN de ces quelques cellules qui se sont formées. Ou alors, vous pouvez faire, quand l'enfant est déjà dans le ventre de la mère, mais qu'il est encore à un stade de très peu évolué, on peut retrouver dans le sang de la mère des traces d'ADN de son fœtus qui vont passer le placenta, qui vont se retrouver en circulation. À partir de ces bouts d'ADN, on peut tirer certaines informations. Et ensuite, il y a le test génétique de prédisposition qui est le plus connu, qui s'appelle l'amiosynthèse. On va vraiment aller chercher des cellules du fœtus par une ponction directement dans le placenta. Donc ces trois méthodes-là, ces trois moments différents de la grossesse, permettent d'avoir des informations. Mais par rapport au fantasme qu'on peut avoir de tout connaître sur le futur d'un enfant, on en est très loin. Il y a des choses quand même précises qui peuvent être déterminées de façon assez surprenante, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux.
On pourrait déterminer dès le ventre.
On peut le faire. Mm-hmm. Il y a des cliniques aux États-Unis, notamment une clinique qui a fait vraiment son business sur ça, qui propose...
On ne peut pas le changer, mais on peut déterminer.
Non, là, c'est vraiment prédiction. On peut vous dire, l'embryon vous donnerait naissance
à une fille
aux yeux bleus ou aux yeux verts, très clairs ou très foncés. Ce sont des choses assez précises. Mais on ne sait rien, par exemple, vraiment de la réalité de l'intelligence. Le fantasme d'avoir des enfants qui seraient plus intelligents que les autres, et c'est pas faute d'avoir cherché. Il y a eu notamment au début des années 2000 en Chine, des énormes recherches et des énormes financements pour trouver le gène de l'intelligence. Une pauvre publication qui a dit on a trouvé une bardée de gènes qui permettrait d'avoir une augmentation du QI de 0,3 points. Donc enfin tout ça pour ça au final. On n'arrive pas à mettre la main sur ça, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs.
C'est peut-être pas plus mal,
donc,
oui.
On ne peut pas le prédire. Et pour y a des choses qu'on peut utiliser dans les prédictions qui sont utilisées de façon raisonnée, contrôlée dans la plupart des pays pour découvrir si les enfants seront porteurs ou pas, sont porteurs ou pas d'une anomalie génétique qui les mènera à être malades. Mais même dans ces cas-là, quand on est sur des maladies précises liées à un seul gène, par exemple pour la mucoviscidose, qui peut peut-être dire quelque chose aux auditeurs, ou pour des formes de cancer, dont on va savoir que si on a un gène muté, on va être prédisposé à avoir ce cancer. On n'est pas forcément certain, même pour la mucoviscidose, on sait que l'enfant va être malade, mais on ne sait pas non plus la gravité. Donc on ne peut pas savoir tant de choses que ça dans l'ADN, et le rêve, le fantasme du bébé parfait... Techniquement,
on en est encore très loin, ouais. Et donc savoir que ça peut être souvent un marché de dupes, en fait, hein, de vous promettre un bébé parfait, c'est un marché de dupes pour le moment.
C'est un marché de dupes, heureusement, pour le moment, heureusement, ou pas en tout cas, il y a un marché parce qu'il y a de l'offre et de la demande.
Pour démêler en tout cas le vrai du faux, le fantasme de la réalité, c'est à lire dans Science et Vie de ce mois de janvier. ADN, le fantasme des bébés parfaits, signé, vous l'avez dit, Héloïse Rambert. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons un exemplaire de Science et Vie, de tous les magazines dont nous parlons, à vous faire gagner si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. À suivre, Un an de science dans la recherche, gros plan sur de nouvelles et incroyables techniques de stimulation des membres paralysés. My body is a cage, et comment en sortir? On écoute Arcade Fire sur RFI.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but the clapping.
Arcade Fire, My Body is a Cage, sur RFI, morceau de circonstance pour feuilleter un an de science dans la recherche. Philippe Pageot, arrêt sur l'image de ces patients paraplégiques qui parviennent à remarcher grâce à la stimulation électrique. Comment ça marche? Rêve ou réalité? Plusieurs équipes de recherche y travaillent. Je propose d'abord d'écouter le chercheur Grégoire Courtine de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Nombreux d'entre vous ont dans leur entourage des amis, peut-être de la famille, qui ont été victimes d'accidents et qui sont devenus paralysés. Des gens qui, comme Christopher Reeves, sont passés en une fraction de seconde du modèle de super-héros à celui de personnes paralysées pour le reste de la vie. Et c'est cette condition que moi qui m'a touché et qui m'a invité il y a maintenant 15 ans à aller à l'Université de Californie à Los Angeles pour essayer de développer avec la fondation Christopher Reeves des traitements pour les paraplégiques.
Grégoire Courtine, actuellement professeur et chercheur à l'École Polytechnique de Lausanne, c'est un des chercheurs qui travaille à faire remarcher des patients paralysés des membres inférieurs, Philippe Pageot, et il n'est pas le seul. Comment ça marche? Vous consacrez un article à ces travaux proprement révolutionnaires.
Effectivement, cette année, il y a eu pas mal de résultats pour ce qui concerne les paraplégiques, donc les paralysés des membres inférieurs, qui par stimulation électrique, on arrive à faire remarcher. Alors c'est pas quelque chose d'extrêmement facile, hein. faut pas quand même...
C'est restaurer la marche avec un déambulateur, mais arriver à retrouver la position verticale, c'est ça.
C'est quand même lève-toi et marche, mais il faut un petit peu de temps. Donc le principe, ça consiste d'abord à implanter un dispositif avec des électrodes au niveau de la moelle épinière, en fait, à un endroit très précis. Donc là, c'est un travail de chirurgie, donc une chirurgienne qui va installer ces électrodes. Et ensuite, pendant assez longtemps, pendant 6 mois, en fait, vous avez un entraînement quasiment quotidien, cinq fois par semaine, vous entraînez 2 à 3 heures.
Ah oui, il y a une grosse rééducation.
Une grosse rééducation. Avec, hein. Et la nouveauté, en fait, de l'équipe de Grégoire Courtine à Lausanne, en fait, c'est de proposer ce qu'on appelle une simulation dynamique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui était fait auparavant et ce que font notamment les autres équipes américaines, ils vont s'adapter, en fait, aux signaux. Ils vont, en fait, essayer d'imiter les signaux qui sont envoyés par le cerveau pour marcher. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la rééducation, il y a une sorte de grande salle dans laquelle les personnes qui sont implantées vont s'entraîner et ils ont des capteurs un peu partout, comme le motion picture au cinéma. Mm-hmm. Ils vont enregistrer les signaux, et si la personne commence à faire un mouvement pour marcher, bien le signal va être adapté, comme si pour lever la jambe, bien ça va être un signal qui va être envoyé comme si...
Finalement, c'est un plan copie exactement le même trajet.
C'est un plan copie, et ça s'adapte vraiment au mouvement, et ça, en tout cas les résultats montrent, sur les 7 personnes qui ont été implantées, que c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on appelait la stimulation continue, hein, qui fonctionnait. Il y a eu des résultats cette année également par des équipes américaines. Mais là, on a notamment des meilleurs résultats. Et en plus, les patients conservent leur sensation. C'est ça qui est aussi assez important.
Ils arrivent à retrouver, conserver des sensations. C'est une recherche encourageante pour tous les paraplégiques. C'est vraiment une piste de recherche très encourageante.
Très très encourageant, ça a été très vite, hein, parce que les premiers essais sur, on continuait qu'il y a 15 ans, mais les premiers essais sur les souris, les preuves de concept, c'était en 2012, hein, donc les premiers essais sur l'homme ont commencé en 2016, et donc là on a quand même avoir des résultats vraiment, vraiment intéressants. Alors toutefois, si c'est encourageant, comme le dit Grégoire Courtine, on ne parviendra pas à guérir les lésions de la moelle épinière avec une stimulation électrique.
Hein, ce n'est pas question de guérison, hein, voilà. C'est ça. Hein. Il est question de restaurer la marche.
Voilà, mais d'augmenter la récupération motrice, et donc faire en sorte que les personnes qui restaient complètement paralysés puissent arriver à leur fauteuil roulant, hein, puissent retrouver un mouvement des jambes, bouger les jambes, exécuter des mouvements.
Et même rien que retrouver la station debout, c'est déjà énorme.
Exactement, la station debout. Et donc des gens qu'on disait condamnés, hein, à ne plus pouvoir bouger, aujourd'hui ont cette possibilité. Alors, c'est aussi, faut savoir aussi que c'est simplement une première étape, hein, c'est qu'une étape du puzzle thérapeutique. Et ce que propose Grégoire Courtine et les autres équipes qui sont en train d'y travailler, c'est d'accompagner, en fait, conjointement ces stimulations par des greffes de cellules souches pour cette fois-ci restaurer les connexions nerveuses, et c'est vraiment l'étape qui est en train de se produire aujourd'hui.
À suivre en 2019 et probablement plus tard, toutes les pistes pour restaurer la marche des paraplégiques. C'est donc à lire dans le dossier Un an de science de la recherche de ce mois de janvier, dont nous avons, je vous le rappelle amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner autour de la question comment la science infuse dans les laboratoires et jusqu'en dans les rédactions. On va maintenant s'interroger sur le sens de la vie carrément avec vous, Cécile Estienne. Dans Cerveau et Psycho, on découvre que c'est très bénéfique de chercher et de trouver un sens à sa vie. C'est aussi bon pour le moral que pour la santé. Alors on ne va pas se gêner avec les Monty Python sur RFI. Cherchons ensemble The Meaning of Life.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg diet? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate. Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving, or is it too late? Why tonight is the meaning of life? For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Just simply spiraling coils of self-replicating DNA.
The Meaning of Life sur RFI, quand les Monty Python cherchent le sens de la vie. Mais comment trouver un sens à sa vie? C'est le très inspirant dossier de Cerveau et Psycho de ce mois de janvier, Cécile Estienne, dans lequel on découvre à quel point chercher, puis si possible trouver un ou plusieurs sens à sa vie, c'est très bon pour la santé physique et psychique, et pour le moral aussi. Une quête de sens quasiment indispensable selon quelques études, c'est ça?
Exactement. Enfin, depuis quelques années, en tout cas même depuis le siècle dernier, tout un courant de la recherche en psychologie, notamment la psychologie positive, a beaucoup insisté sur la recherche du bonheur et du bien-être. Bon, dans le monde de la vie privée, mais aussi dans le monde de la vie professionnelle, comme vous savez, dans certaines entreprises maintenant, il y a même des directeurs du bonheur, des chief happiness officers, voilà, qui œuvrent avec plus ou moins de pertinence, mais il y a un vrai courant de recherche avec des résultats, et quand même aujourd'hui on bute un peu sur la question qui est: est-ce que finalement la joie et le contentement, aussi agréables soient-ils, sont-ils synonymes de vie réussie?
Une grande question.
Grande question qu'on se pose très certainement depuis la nuit des temps. Enfin, c'est évidemment, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de sa vie? On se poserait plutôt aujourd'hui, dans notre société individualiste. C'est effectivement des questions existentielles que se posent les philosophes, les théologiens et plein de gens depuis la nuit des temps. Dans le domaine de la psychologie, un des pères de la psychologie existentielle, c'est ce courant qu'on appelle comme ça aujourd'hui, c'est Viktor Frankl.
Psychiatre autrichien
juif, qui avait travaillé avec Freud, enfin en tout cas qui avait échangé avec Freud, voilà, et qui a été en camp de concentration pendant la guerre, et qui avait été très frappé par le fait que parmi ses co-détenus, c'était pas forcément les personnes les plus costauds physiquement et les plus actives qui s'en sortaient le mieux, c'était ceux qui avaient l'air d'avoir une vie intérieure la plus riche qui s'en sortaient le mieux. Et par la suite, il avait été aussi frappé par des cas de dépression dans le monde occidental glorieux de l'après-guerre,
qui semblaient qui n'avaient pas de sens justement ou qui manquaient de sens.
Oui, visiblement, oui, il y avait quelque chose qui se passait, puisque dans cette vie qui pouvait paraître paradisiaque, si vous évidemment la confronté au temps de la Seconde Guerre mondiale, où les gens avaient un toit et à manger, et aussi une voiture et une télévision et tout ce que vous voulez d'autre.
Voilà, ça ne suffisait pas.
Il y avait quand même des gens pour qui ça ne suffisait pas. Donc toutes les questions se sont posées à ce moment-là. Il a inventé une méthode qui s'appelle la logothérapie, qui est adaptée encore aujourd'hui d'ailleurs à ce type de recherche. Donc voilà, donc le sens de la vie, enfin le sens de sa vie, hein, parce qu'on va rester sur cette question-là, c'est toujours effectivement multidimensionnel.
C'est pas un sens, c'est pas trouver un sens, c'est peut-être en trouver plusieurs. Non,
peut-être que le sens de la vie, on peut le laisser aux gens religieux, mais pour le commun des mortels déjà, même si une de ces dimensions peut être effectivement la spiritualité, hein, et le sens religieux bien sûr, mais ça ne se limite pas à ça. Alors bon, selon les chercheurs et les courants de la psychologie, ça peut avoir plusieurs dimensions, plusieurs caractéristiques. Je vais en citer juste quelques-unes. Il y a souvent une part de signifiance, c'est-à-dire l'idée que votre vie et ce que vous faites a de l'importance pour les autres, voire pour le monde, ça dépend de ce que vous faites. Mais voilà. Il y a le sentiment d'appartenance, le fait que vous appartenez à une famille, à un groupe, à une association, à une entreprise, enfin que vous appartenez à un groupe plus large que vous-même et votre nombril. Le sentiment de cohérence aussi, ça c'est assez important, pas avoir l'impression de vivre dans le chaos absolu, mais que votre vie... obéir à une certaine harmonie, voilà. Et puis évidemment, ce qu'on appelle l'orientation, avoir des buts et des valeurs auxquelles vous pouvez adhérer et auxquelles votre vie adhère. Voilà.
Savoir pourquoi on est fait, finalement aussi, c'est un peu ça.
Oui, en tout cas. Cette formule un peu triviale, un peu familière, c'est effectivement être, se sentir bien dans ses baskets et droit dans ses baskets.
Droit dans ses bottes, voilà. Alors, pour le coup. Et ça fait du bien et c'est bon pour la santé, en plus.
Alors, c'est bon
pour
la santé
psychique et physique.
Alors, on a trouvé des corrélations entre les gens qui, effectivement, disent trouver que leur vie a un sens, voilà, et le fait qu'ils ont moins de maladies cardiovasculaires, qu'ils sont moins sujets aux dépenses type Alzheimer et qu'ils sont aussi un système immunitaire plus efficace. Alors, corrélation n'est pas raison, peut-être que c'est l'inverse, c'est peut-être parce que les gens sont en bonne santé et qu'ils ont plus d'occasions d'entrer dans des activités plus engageantes pour les autres et pour eux-mêmes, mais enfin, il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là.
Voilà. D'autant plus aujourd'hui où le sens est devenu une denrée rare, ça c'est un professeur de psychologie existentielle, justement Jean-Luc Bernaud. Dans Cerveau et Psycho
on a beaucoup insisté sur le domaine du travail, parce que bon, la crise existentielle peut toucher effectivement beaucoup de domaines, on le voit en ce moment, mais elle est particulièrement visible dans le monde du travail aujourd'hui. Jean-Luc Bernaud, donc, qui est professeur de psychologie au CNAM, dit qu'aujourd'hui, après le burn-out, vous savez, quand vous travaillez trop et que vous tombez dans l'épuisement, après le bore-out, parce que vous vous ennuyez à mort dans votre boulot, on voit aujourd'hui des cas de burn-out. Burn-out, ça veut dire baisse de tension, en fait. C'est juste que vous n'avez plus la motivation. Vous n'avez plus la motivation parce que
plus
ça n'a pas de sens.
D'accord.
Enfin, pour vous, ça n'a pas de sens. Et effectivement, dans le monde actuel, qui est très intéressant et très fascinant, mais qui est une mutation hyper rapide tout le temps, c'est pas toujours facile de retrouver ses repères. Voilà. Et par exemple, dans ces grandes multinationales, voilà, où les décisions sont prises par des actionnaires qui habitent à l'autre bout de la Terre, peut-être parfois, vous voyez pas toujours très bien pourquoi les décisions sont prises et à quoi ça sert.
Et qu'on
le travail
un petit pion et on ne peut plus donner sens et là c'est pas bon.
Et il faut, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? En fait, il faut se poser des questions. Alors ça a l'air assez d'intruisme, mais c'est pas aussi facile à dire à faire qu'à dire.
Ça peut être remuant de chercher du sens, ça peut être un peu remuant.
Oui, et puis nos modes de vie actuels ne nous posent pas tellement à nous poser des questions.
Faut s'arrêter pour se poser des questions.
Voilà, faut s'arrêter, faut arrêter de regarder ses écrans, de téléphoner en regardant la télé et en marchant, enfin bon bref, tout ce genre de choses, il faut être capable de se poser des questions. Alors, d'après Jean-Luc Bernaud, il y a deux moments assez critiques, classiques, à la quarantaine, dans le monde du travail. C'est le moment où vous pouvez vous apercevoir que finalement votre travail ne vous convient pas, mais il est encore temps de changer. Et puis à la retraite, parce que là on peut se trouver devant un vide abyssal. Les jeunes étant en général aujourd'hui, ont souvent renoncé à mettre tous leurs espoirs dans le travail.
Très inspirant dossier en tout cas à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois de janvier sur la quête de sens, numéro dont nous avons évidemment quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs, pour chercher, trouver et donner du sens à votre vie. Histoire de vous y encourager, on écoute l'inverse, Métro, Boulot, Dodo, le bien nommé groupe Sens Unique sur RFI.
Biggity, c'est mon réveil qui bip. Fini l'heure du sleeping, je dois me lever et vite. Pour aller travailler, pour gagner beaucoup de blé. Toute la journée, me consumer, me fatiguer, me décarcasser.
Waouh! Mais que me racontes-tu là? Hein? Crois-tu que n'est que ça? Moi je ne le crois pas. Illustre petit citoyen qui ne comprend rien à rien. As-tu oublié l'heure de la fiesta?
Mais tous les matins, le même cirque je vis. Une vie de bébé des chiens, du lundi au vendredi. Dehors il fait froid, dehors il fait nuit. Et que ne donnerais-je pas pour rester dans mon lit? Oui, mais la coche de l'arrivée tardive me guette. Tu me parles inconsciemment de faire la fête. Mais sais-tu que si ces retards se répètent, mon patron, ni une ni deux, et oh, et il me jette. Une fois ma douche terminée, mon petit déjeuner ravalé. Après avoir pris le soin de bien m'emmitoufler, je vais me mêler, je vais me noyer, je vais m'infiltrer, me laisser emporter dans une boule touchée par la maladie du stress et le bus stop. Je ne l'ai pas loupé, tout est tip top. Là j'ai repéré une place assise, je cours, je me lance et hop. Je vais devoir me taper une demi-heure de trajet à contempler, à supporter ces gens et leur gueule de fort. Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip. Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip. Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip.
Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip. Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip. Biggidi biggidi bip, c'est mon réveil qui bip. Biggidi 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 bip.
7h du mat, il faut abrer, nous sommes surveillés.
Métro, boulot, dodo, sens unique sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Voyage à remonter le temps maintenant sur les traces de la mystérieuse arche d'alliance de la Bible qui fait la une de Science et Avenir. Mathieu Novak, reportage et interview des deux plus éminents spécialistes du récit biblique et de leur fouille en Israël sur les traces de l'arche perdue, les s'aventuriers de l'arche perdue en quelque sorte.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
L'arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination.
Mythique arche d'alliance qui vient de se refermer, qui va peut-être s'ouvrir et qui a notamment inspiré les aventuriers de l'arche perdue qu'on vient d'entendre, qui ne cesse aussi depuis des siècles d'alimenter notre imaginaire collectif, Mathieu Novak. Sauf qu'aujourd'hui, deux spécialistes du récit biblique, c'est le professeur Thomas Romer du Collège de France et le directeur de l'Institut d'archéologie de Tel Aviv, Israël Finkelstein, tentent d'en retrouver les traces archéologiques.
Oui, disons que ils sont pas à la recherche comme Indiana Jones de l'arche en elle-même. Ce qu'ils font eux, c'est ils partent de la Bible, qui est pas un livre d'histoire, mais dans lequel on peut avoir des faits historiques qui peuvent être relatés d'une manière ou d'une autre.
Il y a d'ailleurs des liaisons dangereuses entre Bible et archéologie. L'un ne confirme pas toujours l'autre.
Et avant de faire de l'archéologie dans la terre, ils font ce qu'on pourrait dire de l'archéologie des textes, c'est-à-dire qu'ils cherchent des espèces de correspondances et ils ont trouvé un site qui est à 13 km au nord-ouest de Jérusalem. Alors c'est une colline qui porte le nom de Kiryat Jearim. Et ils ont commencé effectivement à faire des fouilles dessus. Alors c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve sur cette colline? On trouve une église qui a été bâtie en 1924 et qui s'appelle Notre-Dame de l'Alliance.
Tiens donc.
Bon, évidemment, pour faire des vraies fouilles, il faudrait tout casser, et donc c'est pas possible. Mais il y a une congrégation de sœurs qui habitent là-bas, qui leur a donné l'autorisation de faire des fouilles dans les jardins qui sont autour. Donc ils ont fait une première campagne de fouilles en 2017, et on a eu la chance de pouvoir les accompagner.
Et oui, vous avez vraiment un reportage in situ signé Bernadette Arnault.
Bernadette Arnault, qui est allée partager le quotidien de Thomas Romer et de Israël Finkelstein, qui sont des gens tout à fait sérieux. On n'est pas dans les chercheurs d'or fous. On est vraiment dans la recherche universitaire.
Ni non plus dans les chercheurs qui veulent prouver certaines thèses. Ils sont vraiment au-dessus de ça.
On a un site intéressant. On sait qu'ils ont beaucoup analysé le terrain. C'est une colline artificielle. On sait qu'en dessous de cette église actuelle, il y avait une église byzantine qui a été détruite par les Perses. Et ils ont creusé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que ici, c'est un vrai millefeuille archéologique. On trouve des occupations hellénistiques, des occupations romaine, et on essaie de comprendre qui a succédé à quoi. Alors ce qu'on est sûr, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une structure de garnison romaine, et qu'elle-même a été bâtie sur un temple juif. Alors comment on voit ça? On voit des murs absolument gigantesques de 3 mètres d'épaisseur qui avaient l'air de soutenir une sorte de plateforme rectangulaire. C'est quelque chose qui à l'époque était vraiment, vraiment rare. Alors, époque, quelle époque? Eh ben, on voit ça en retrouvant des petits bouts de céramique. Des petits bouts de céramique qui ont été dispersés. Ça nous permet de dater entre 900 et 700 avant Jésus-Christ. On est bien dans les temps bibliques. Datation confirmée avec l'analyse des minéraux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'il y avait une forteresse, sans doute un sanctuaire là-bas. Est-ce que c'était une forteresse d'Israël? Est-ce que c'était, à l'époque, il y a eu une conquête assyrienne? Donc, est-ce que c'était un bâtiment bâti par les Assyriens? Pour le moment, c'est des questions. On sait juste qu'il y avait un sanctuaire et peut-être que l'Arche d'Alliance pourrait s'y trouver.
Donc, au fond, ça ouvre des questions. Ça, évidemment, on arrête d'alimenter le mythe et la légende pour essayer de voir ce qui s'est réellement passé au-delà du mythe, au-delà de la Bible et d'essayer d'en trouver des traces archéologiques aujourd'hui.
Oui, disons qu'aujourd'hui, des mythes, il y en a des dizaines et des dizaines. L'Arche d'Alliance, on dit qu'elle pourrait être peut-être en Éthiopie, elle pourrait être même à la cathédrale de Chartres, elle pourrait être en Israël.
Et puis alors, elle est magique, évidemment.
Et elle est magique. Mais alors pourquoi à cet endroit-là? C'est qu'on sait, enfin, du moins d'après la Bible, il est dit que l'Arche d'Alliance est passée par cette colline avant d'être déposée définitivement à Jérusalem. Elle est restée au moins quelques dizaines d'années à cet endroit-là. Donc elle est passée a priori. Après, ce qui est étonnant, c'est que il y a beaucoup de mythes, d'histoires qu'on raconte tout, mais cette arche d'alliance, c'est un objet sacré qui est cité plus de 200 fois dans la Bible. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe vraiment dans les écrits. Ensuite, une fois qu'elle est à Jérusalem, ça disparaît complètement. Elle n'est plus mentionnée du tout. Elle arrive à Jérusalem dans un temple, probablement le temple de Salomon, et on n'en a plus trace. Mais donc on sait que la dernière étape juste avant, c'était sur cette colline. En plus, il y a d'autres indices que le nom de Kiryat Jeharim en arabe fait allusion à un prêtre qui était en charge de la conservation de cette arche pendant qu'elle était là-bas. Donc il y a un faisceau d'indices qui donne que c'est un site archéologique intéressant. Après, des mythes, il en reste beaucoup.
Reportage in situ pour vous faire votre propre idée sur les traces de la mystérieuse Arche d'Alliance. Et donc la une est le dossier archéologiquement très fouillé par Bernadette Arnault dans Science et Avenir. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons un exemplaire à vous faire gagner, si vous nous le demandez, par mail ou sur notre page Facebook. En attendant, je propose d'écouter un groupe israélien qui vient d'entrer dans la playlist de RFI de ce mois de janvier, The Angel Sea. Le morceau s'appelle Vera et ça vaut le détour.
Angel Sea sur RFI. Le morceau s'appelle Vera. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, c'est la biodiversité en ville qui fait la une de Science et Vie. Caroline Tourbe, vive la ville et comment elle invente de nouvelles espèces carrément.
Oui, oui. Darwin n'aurait pas pu imaginer de plus belle validation de sa théorie parce qu'en ville, actuellement, en quelques générations, on voit apparaître de nouvelles espèces. Espécies urbanitus, hein, j'essaye comme ça, ça veut rien dire, c'est moi qui m'amuse.
par exemple,
il y a des exemples très rigolos et on voit que la pression exercée par la ville va vraiment modifier certaines espèces qu'on connaît bien. Par exemple, la chaleur qui va, avec la modification du climat augmenté, permet d'observer sur quelques générations l'apparition de coquilles plus claires chez les escargots. Bah forcément, hein, plus c'est clair, moins on a chaud dans sa coquille. Mmh. Également des insectes qui vont diminuer de taille en lien avec l'augmentation de la température. Pour la pollution, on s'aperçoit que les souris résistent aux métaux lourds. Les souris en ville, au bout d'un moment, résistent aux métaux lourds.
Elles s'adaptent très vite. Hein. Voilà. Enfin, ces petits organismes s'adaptent très vite.
Et puis que pour le béton, les surfaces en béton, bah, certains lézards ont les doigts de plus en plus collants parce qu'avec les doigts qu'ils avaient avant, ils n'arrivaient pas à bien s'accrocher. Ils tombaient, mais là, avec leurs doigts bien collants, tac, c'est reparti, ils peuvent remonter. Donc on voit vraiment qu'il y a des changements très rapides et c'est des changements qui sont observés en ville qui s'approchent de la vitesse maximale qu'on avait théoriquement pour la théorie de l'évolution.
Biodiversité ville. Hein. C'est pour une fois assez réjouissant. À lire dans Science et Vie. Philippe Pageot, quant à vous, pour la recherche, vous avez rencontré une très inspirante chercheuse. C'est la prix Nobel de chimie américaine Frances Arnold.
Exactement. Ils ont pu rebondir sur l'évolution puisqu'elle travaille sur elle a mis au point un mécanisme qu'on appelle l'évolution dirigée. Et qui permet en fait de façonner, de construire, d'obtenir des enzymes. Donc des enzymes, c'est ces petites molécules, ces protéines qui permettent d'accélérer les réactions chimiques dans le corps, qui sont extrêmement importantes pour la vie. Et bien, grâce à ce mécanisme d'évolution dirigée, elle obtient des enzymes qui ont des fonctions extrêmement différentes, tout à fait différentes de celles pour lesquelles c'était prévu auparavant, qu'elles fonctionnent dans des milieux différents. Et ça a énormément d'applications pour toutes sortes de choses liées à l'environnement, par exemple dépolluer les sols, fabriquer de nouveaux médicaments.
Oui, c'est des mécanismes biologiques pour qui deviendraient, ce que vous dites dans cet article, les usines chimiques du futur.
Voilà, donc c'est effectivement un des espoirs et une des volontés de Frances Arnold hein, qui marie à la fois, qui allie cette compétence de chercheuse fondamentale mais également d'ingénieur, parce qu'elle a quand même déposé 57 brevets
Il n'y a pas beaucoup de femmes prix Nobel chimie.
Et c'est la première femme prix Nobel de chimie américaine, la première américaine prix Nobel de chimie. Et en ce sens, c'est aussi un modèle. Elle m'a raconté que depuis qu'elle avait eu le prix Nobel, elle avait rencontré des milliers et des milliers de jeunes gens, de jeunes filles dans les écoles, effectivement.
Un modèle à suivre, un personnage inspirant.
Très inspirante.
Son interview, donc, à lire sous votre plume, Philippe Pageot, dans La Recherche. Mathieu Novak, on ne peut pas se quitter sans évoquer...
un autre personnage inspirant, une autre femme exceptionnelle. Femme, voilà. Aline Kinner, qui était à Science et Avenir depuis 1995.
Rédactrice en chef des hors-série, mais 2008, auteur également,
et qui vient de nous quitter. On a perdu une amie, une auteure très talentueuse, une journaliste très curieuse. Elle effectivement est auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelait La nuit des béguines sur les femmes préministes du XIVe siècle, qui a connu un gros succès l'été dernier. Elle s'est battue contre la maladie en étant présente au journal jusqu'à la fin. Et elle était passionnée par tous les sujets, de l'Égypte au Moyen-Âge, des pyramides et des cathédrales. Elle aimait beaucoup aussi tout ce qui touchait à l'au-delà. Elle est partie faire son dernier reportage. On pense à elle et on veut entretenir son souvenir en entretenant notre propre passion des sciences et des histoires.
Elle va nous manquer. Hommage à Aline Kinner. Au Lekeur, malgré tout, je propose de terminer ce tour de table, le premier de l'année, par un sujet qui nous intéresse tous, Cécile Estienne. Le secret des couples durables. À lire absolument dans Cerveau et Psycho. Alors c'est quoi la recette?
Absolument. Eh bien dans ce papier, pas de scoop, mais quand même un petit panorama des études qui ont essayé d'analyser toutes les idées reçues que nous avons sur les couples durables pour infirmer ou confirmer ces idées. Par exemple, si vous croyez que l'amour dure 3 ans et qu'au bout de 3 ans, seule la routine et la fatigue du divorce vous fait rester ensemble, eh bien non.
C'est pas vrai. Bonne nouvelle. Voilà.
Une étude américaine a montré ainsi chez plusieurs centaines d'individus hein, mariés depuis plus de 10 ans, voilà, que quand même 84% d'entre eux se disaient encore très amoureux, voire intensément amoureux.
Ah, voilà. Donc tout n'est pas perdu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Peut-être sont-ils tous des mythomanes. Mais peut-être pas. Et une autre étude américaine a placé 17 individus, mais bon, l'expérience coûte cher, en IRM, leur a montré des photos de l'élu de leur cœur. Voilà, et ils ont bien vu que ça stimulait leur circuit de la récompense et aussi une des zones associées à l'activité sexuelle. Comme quoi, ça marche. Cela a été marié depuis plus de 20 ans. Donc, comment faire?
Eh ben oui, comment
le
faire
secret, c'est rapidement le sens des responsabilités. L'amitié, tout ce que vous pouvez partager à votre
conjoint.
Voilà. Mm-hmm. L'activité sexuelle.
Ah oui,
bien sûr.
À ne pas oublier, hein, ça fait
et
partie du précepte.
Et le témoignage de gratitude. Ah. Voilà, ne jamais oublier de dire merci à l'autre, ça coûte pas cher.
Même
ça
au bout d'un temps de mariage.
Hein. Et ça maintient les liens très solides. Et dans ce numéro de Cerveau et Psycho, si vous voulez en savoir plus sur votre couple, il y a un petit test à faire que je vous conseille.
Moi, je l'ai fait, je voudrais pas les résumer à l'antenne, mais ça va ouf, ça devrait fonctionner. En tout cas, vous pourrez vérifier, amis auditeurs, dans Cerveau et Psycho. Merci Cécile Estienne, merci Caroline Tour, merci Philippe Pajot et Mathieu Novak. On se retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien, autour de vos magazines respectifs, donc Cerveau et Psycho, Science et Vie, La Recherche et Science et Avenir. Magazine dont nous avons, je vous le rappelle, amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner. Ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs. De la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une minute. We'll be right back.